Donc je suis en compagnie d'Elisa Dobrésil à l'occasion de sa venue pour le Dream Nation Festival qui jouera donc le samedi 18 septembre sur la scène Bass. Bonjour Elisa.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Alors tu es une DJ productrice et compositrice de référence sur la scène drum and bass en France. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a orienté vers ce style musical ?
Écoute, moi j'ai découvert la musique électronique par la jungle en 96. C'est une de mes amies qui m'a, je raconte toujours la même histoire, mais c'est une de mes amies qui m'a obligée à aller au Rex Club un soir. Bon, j'ai plutôt du reggae ou du dancehall. Et pour moi, la musique électronique, c'était, tu sais, ce qu'on entendait, c'était Dance Machine, ce genre de choses. J'avais absolument aucune idée de ce qui se passait d'autre que ça dans la musique électronique. Et arriver dans le Rex Club, là, ça a été une révélation parce qu'il y avait des énormes subs, des basses, des MC. Donc ça me rappelait vraiment la culture sous-système de ce que j'écoutais. Donc de là, je me suis mis, j'étais mineure, donc j'ai plus jamais pu entrer au Rex. Et j'ai commencé à sortir en free party. De là, j'ai eu envie de mixer, donc je me suis mis à mixer avec mes copains. J'ai intégré le sound system Trouble Fête, avec qui on a organisé pas mal de choses, des free parties. On a eu un label, enfin pas mal de choses. Et assez rapidement, j'ai été bookée au festival Astropolis, donc en 99, qui a été vraiment le tout départ, le tout petit commencement de ma vie de DJ. Et j'ai eu ma résidence au Rex Club à l'automne suivant, en 99 aussi. Et de là, tout a commencé.
Oui, alors justement, la fin des années 90, ça a vraiment été une période assez faste pour la drum and bass et la jungle. Comment les choses ont évolué depuis sur cette scène qui reste quand même très underground ?
Les choses ont très bien évolué. Il y a eu une période vers 2012 où le dubstep a pris vraiment une grosse ampleur et la drum and bass était moins créative, peut-être plus commerciale, moins intéressante ça pataugeait un petit peu et il y a un gros retour, un changement musical, un gros retour en ce moment, il y a un gros retour à la jungle tel qu'on la faisait au début, mais avec les moyens d'aujourd'hui, donc une très très belle production. Et c'est plus une scène si underground que ça. Le reste en France, mais même en France, il y a beaucoup d'activistes, il y a énormément de bons producteurs en France maintenant. Et à l'échelle mondiale, enfin en Angleterre, c'est quand même énorme. À l'échelle mondiale, il y a des gros festivals partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Croatie, en République tchèque. Enfin, c'est plus une scène si underground que ça. C'est quand même une scène qui est devenue internationale et qui existe dans tous les pays, avec des producteurs dans tous les pays. Donc ça a plutôt bien évolué. Moi, je trouve la musique plus intéressante qu'elle ne l'a jamais été, presque.
Tu parlais tout à l'heure des liens entre la culture sound system reggae et puis la drum and bass. Ça a toujours marché un petit peu à côté, un petit peu de pair. Justement, tu disais là, en Angleterre, est-ce que c'est pas aussi ça qui participe au fait que ce soit peut-être moins underground là-bas ? Le fait qu'il y ait plus une culture reggae, quoi ?
Il y a plus une culture reggae, mais c'est clairement une musique qui vient de là-bas aussi. Donc elle a été créée par des Anglais, elle est vécue par des Anglais au quotidien. C'est normal que ce soit plus gros là-bas. Et ils ont effectivement toute cette culture du son qui est très très bien réglée. Et oui, lié à la culture sous le système jamaïcaine, forcément. C'est une musique qui vient du reggae aussi, hein, qui est le reggae est vraiment une des musiques qui a influencé la jungle.
Tu nous parlais tout à l'heure justement des soirées massives au Rex ou du festival Astropolis. Quel souvenir tu gardes de ces soirées ?
Ah bah, je garde un souvenir incroyable. Massive, c'était vraiment toute ma vie. Je vivais pour les massives, hein, en fait. Je passais ma vie à monter les plateaux, à faire les budgets, à faire la com. Et puis, comme c'était tous les mois, d'une soirée, on se préparait déjà au mois suivant. Et c'était devenu vraiment un rendez-vous des junglistes incontournable, avec une ambiance merveilleuse, pleine d'amour. On a booké vraiment des DJs du monde entier, même, parce qu'on a booké des Américains, des Autrichiens, enfin vraiment c'était un rendez-vous incontournable et moi je me suis vraiment j'ai tout appris là-bas, j'ai appris à mixer au Rex, j'ai appris je me suis fait ma culture musicale comme ça, en cherchant des artistes à inviter. Donc ça a été vraiment les musicalement les plus jolies années de ma vie, quoi.
Ouais, donc du coup les soirées massives au Rex, qui étaient vraiment adressées à un public un peu de connaisseurs, et à côté de ça Astropolis c'était peut-être le moyen de toucher des gens qui étaient moins spécialistes, non?
Astropolis, c'était moins des spécialistes. De toute façon, ceux qui venaient au Rex n'étaient pas forcément des spécialistes non plus. On faisait des soirées gratuites pour pouvoir attirer plus de gens à écouter de la drum and bass, ce qui a marché. Et Astropolis, c'est vraiment différent. C'est vraiment le grand festival, c'est le meilleur festival de musique électronique français, où tu pouvais vraiment trouver de tout. Tu trouvais de hardcore avec Manu, de la techno, et puis évidemment la drum and bass avait sa place au milieu dans ce paysage musical. Donc Astropolis c'est différent, c'est vraiment l'aboutissement de l'année en fait. Je sais que sur mes sets par exemple, à chaque fois que je prépare un set, il y a certains morceaux qui me font penser à Astropolis au lever du jour. Donc en fait, tous les sets mènent à Astropolis. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais c'est vraiment la date attendue de l'année qui vient clôturer une année entière musicale en beauté, quoi.
Alors, on va parler de choses peut-être un petit peu moins joyeuses. Toi, comment as-tu vécu les deux années de Covid et de confinement et de protocoles sanitaires successifs?
Alors, écoute, je les ai très bien vécues parce que j'avais besoin de faire un break. De toute façon, il vaut mieux bien vivre les choses que les subir. C'est ce que j'ai décidé de me dire, tu vois, plutôt que de me plaindre, d'être en colère, j'ai préféré profiter de ce moment. Et ça faisait quand même plus de 20 ans que j'étais en permanence sur la route, que je m'arrêtais pas, que j'avais un rythme de sommeil pas terrible, que je ne pensais qu'à la drum and bass, la musique, et du coup là j'ai pu faire un break, j'ai pu m'arrêter. J'ai passé 6 mois avec mes enfants, 6 mois au même endroit sans bouger. Donc je suis partie me confiner en famille. Mmh. Et j'ai pris un super rythme. Je faisais du yoga la journée, je faisais de la musique la nuit. Donc j'avais pas réussi depuis très longtemps à produire et à composer. J'avais plus d'idées, plus de, tu vois, j'avais vraiment plus rien, quoi. J'avais plus rien dans la tête. J'étais tellement dans un speed permanent, à aller d'une date à une autre, à organiser mes soirées au Rex, à faire. J'avais plus de, tu vois, j'avais une petite flamme qui s'était un peu éteinte pour la musique que j'ai retrouvée. Et je me suis un peu reposée, ce qui était bien. Et j'en ai profité aussi pour me former en yoga, parce que je fais beaucoup de yoga et j'avais depuis longtemps prévu de me former pour pouvoir enseigner le yoga. Donc j'en ai profité, j'ai fait du yoga toute l'année. Et j'en sors avec un diplôme de prof de yoga et je vais commencer à enseigner à la rentrée. Moi, j'ai vraiment pris ce que je pouvais prendre de bon, plutôt que d'être en colère, plutôt que d'en vouloir au monde entier.
Ouais, c'était presque une coupure nécessaire, quoi.
Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux prendre des choses comme ça que se morfondre. Voilà. Et j'étais ravie à la reprise des soirées, tu vois. J'étais ravie à la reprise tu vois, après avoir fait un break, tu reviens, j'en ai pleuré de bonheur presque au platine, mais après avoir fait un break, tu reviens vraiment avec une autre motivation, tu vois. Je pense que moi je l'ai bien pris.
Et du coup, qu'est-ce que ça te fait, comment t'appréhendes le fait de retrouver le public au festival de Dream Nation? Alors t'as déjà retrouvé un petit peu de public, mais là peut-être des jauges un petit peu plus imposantes.
Des jauges un petit peu plus imposantes. Écoute, je suis ravie. Quoi qu'il arrive, c'est que ce soit petit. J'ai commencé avec une fête déjà assez grande. Mon premier booking au retour a été le Festif L'Art. Donc je me suis déjà retrouvée face à un public de 10 000 personnes.
D'accord.
Avec la semaine suivante un public de 300 personnes. Moi de toute façon j'aime tout. Je pense que c'est une énergie différente. Je suis très contente qu'on fasse Dream Nation dans un nouvel endroit. On l'avait le Bourget, c'est quand même un très bel endroit. C'est un beau lieu en extérieur, ça va être super. Tu vois, par rapport à... C'est vrai que les docks de Paris, c'était très bien, mais là, on va se retrouver avec un espèce de décor naturel, des avions autour de nous, les scènes extérieures, c'est quand même danser dehors, c'est quand même un bonheur. Donc je suis très contente, toujours contente de jouer à Dream Nation. Je me sens à la maison à Dream Nation.
Comment tu te projettes sur les années à venir? Quels sont tes projets, tes envies? Qu'est-ce que t'as prévu?
Alors, j'ai un label en construction avec mon ami Bobby. Donc, Bobby, c'est vraiment le binôme, un de mes binômes de musique avec qui je produis beaucoup, avec qui je fais des émissions de radio, avec qui j'adore mixer. Et on a pour projet depuis 2 ou 3 ans maintenant de créer un label. Alors on allait le sortir juste avant le confinement. Ça, c'est vraiment pour le coup, c'est le truc qui m'a un peu plombé du confinement. On allait le sortir à ce moment-là et on s'est dit que ça servait à rien de commencer à sortir des morceaux pour danser au moment où on est enfermé. Donc on n'arrête pas de repousser à plus tard. Mais tout est prêt, quoi. On a les premiers morceaux, on a à peu près 6 mois de sortie de morceaux qui sont prêts. On attend juste de décider du bon moment parce que c'est quand même assez incertain. On ne sait pas si tout va pas fermer à nouveau. Donc pour le moment, on attend d'être sûr qu'on va pouvoir continuer à danser pour pouvoir sortir le label. Donc ça, c'est une chose. Donc la deuxième chose, c'est continuer à produire, m'y remettre. J'ai plein de morceaux, tu sais, qui sont pas sortis. Mm-hmm. Donc les sortir. J'ai commencé à enseigner le yoga à la rentrée, donc je vais avoir une espèce de double vie pour la première fois de ma vie. Et puis organiser des belles soirées. On a des jolies choses. On travaille un petit peu avec le cirque électrique. Des choses au Glazart aussi avec Forever. Continuer à m'investir pour ma musique et mon mouvement, quoi.
Au niveau du mix, comment ton cœur balance entre le numérique et le vinyle?
Ah, c'est une très bonne question. Écoute, j'ai été très vinyle toujours. Et je suis un peu passée forcée et contrainte au Serato dans un premier temps. Parce que c'est vrai que la portée du poids et ça devenait difficile de trouver tout ce qu'on voulait en vinyle. Nous, on gravait des dubplates, tu sais, avec, c'est à 60€ un dubplate pour un morceau que tu vas pouvoir passer que 30 fois, c'est un petit peu compliqué. Mm-hmm. Donc j'étais passée au Serato, ce qui me permettait d'être un peu entre les deux.
Et puis de tester des morceaux qui n'étaient pas sortis ou ce genre de choses-là.
Exactement, mais d'avoir quand même les touchés du vinyle pour mixer avec un outil numérique, avoir tous mes morceaux dans mon ordinateur, c'était bien pratique. Et puis j'ai fini par passer sur CDJ il y a à peu près un an parce que c'est un peu compliqué de mixer sur vinyle en festival.
Avec le Rumble et tout.
Avec le Rumble, avec les platines foireuses, avec les changements de, tu sais, débrancher les, tout débrancher, te faire un stress quand tu dois brancher avec le DJ précédent joue. Donc voilà, j'ai un peu cédé à la facilité et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus stable de mixer sur CDJ aujourd'hui que sur vinyle, quoi.
Et t'as déjà testé les produits genre phase?
Ouais, alors ça c'est fabuleux, ça c'est vraiment génial. Alors j'en ai pas, je compte en trouver pour moi. Il y a des DJ comme Marquis qui jouent avec tout le temps. C'est vraiment bien parce que t'as un souci de moins à régler. T'as pas le problème entre la cellule et le vinyle, donc ça rend la chose quand même beaucoup plus facile.
Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous citer 3 artistes actuels que tu considères comme incontournables?
Je vais parler des Français, du coup, en fait. Ouais. Tout simplement, parce qu'on a quand même des très très bons producteurs français. On a Visage, on a Monkey, Skylark, qui produisent beaucoup de choses. Pour n'en citer que quelques-uns, quoi. Voilà, du côté des Français, on a des très beaux artistes.
Ok. Eh ben, écoute, je te remercie, Elisa. Et puis, on se verra de toute façon le samedi 18 septembre sur la scène Bass. Et puis, on espère que ce sera un chouette festival. Et puis, en tout cas, merci pour nous avoir accordé un peu de temps. Et puis, à très bientôt.
Eh ben, merci à vous. À très bientôt.